Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. L'égalité est donc une question centrale dans un système politique comme la démocratie. Ne serait-ce que parce que l'idéal démocratique est de réduire les inégalités et notamment l'inégalité quasi originelle entre les hommes et les femmes. Un idéal qui n'est pas toujours partagé. C'est pourquoi la démocratie a sans doute autant de mal à s'installer durablement dans certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient. C'est ce que concède notre invité Nouza Guessous, titulaire de la chaire Averroès sur l'islam méditerranéen à l'Institut IREMAM d'Aix-en-Provence. Un entretien réalisé lors des 26e rencontres Averroès à Marseille. Une émission que vous pouvez réécouter sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre appli Pure Radio. Bonjour Nouza Guessous.
Bonjour Éric Bataillon.
Professeur émérite de biologie médicale à l'université de Casablanca au Maroc. Vous avez fait partie de la commission royale chargée de la réforme de la Moudawana entre 2001 et 2003, qui a abouti à l'adoption du code de la famille, c'était en 2004. Vous avez également présidé le comité international de bioéthique de l'UNESCO de 2005 à 2007. Et vous menez vos recherches actuelles sur le statut des femmes dans les sociétés de culture musulmane. Nouza Guessous, les 26e rencontres à Averroès interrogent sur la démocratie entre Europe et Méditerranée. La démocratie est un principe politique né sur les bords de la Méditerranée, entre Athènes et Rome. A-t-elle vocation à irriguer l'ensemble du pourtour méditerranéen nord et sud ?
Indiscutablement, je pense que le processus historique de développement des États-nations au sud de la Méditerranée prouve bien que la démocratie a irrigué effectivement les deux côtés de la Méditerranée. Maintenant, il est peut-être temps de se poser la question, est-ce que ce modèle est universalisable dans le vrai sens du terme, tout comme tout un tas d'autres choses qui sont considérées comme universelles, et si oui, dans quelles conditions et avec quel réajustement, je dirais. Mais c'est indiscutable parce que la démocratie, finalement, c'est quoi ? On peut retenir plusieurs définitions, mais c'est d'abord et avant tout une quête de justice, c'est d'abord et avant tout une quête d'égalité, c'est d'abord et avant tout, pour reprendre le concept qui a été avancé par Yad Ben Achor, souffrir moins aussi. Et ça, je pense que ça fait partie des besoins de l'humanité d'une manière générale.
Oui, la question de l'égalité, c'est une question centrale pour la démocratie.
C'est une question centrale pour la démocratie, surtout quand on pense que la démocratie est un idéal par lequel on va réduire les inégalités. On va tendre à faire, non pas à faire disparaître, mais à les réduire progressivement. Et comme une des inégalités originelles, je dirais presque, qui est universelle et qui est historique, c'est la différence, ce que Françoise Héritier avait appelé la valence différentielle du féminin et du masculin. C'est une des... Les uns les interprètent comme une inégalité. Je pense qu'il y a, que le temps a montré que c'était des inégalités, mais d'autres interprètent cela comme étant des reflets de leurs différences naturelles, biologiques, etc., etc.
Alors justement, puisqu'on parle des inégalités hommes-femmes ou de l'égalité hommes-femmes, la présence des femmes dans les mouvements de libération contre les colonisateurs ou contre les protecteurs, il y a eu des protectorats, notamment en Tunisie ou au Maroc, qu'est-ce qui a péché après cette présence des femmes dans ces mouvements de libération ? Est-ce que des promesses n'ont pas été tenues ?
Des promesses n'ont certainement pas été tenues. Certaines autres l'ont été, avec les limitations qui étaient liées aux politiques à ce moment-là, je dirais, aux politiques et aux gouvernements qui se sont succédés. Une des promesses qui a été tenue, c'est celle de la scolarisation des filles. C'est celle de l'accès au savoir, de l'accès à l'école, de l'accès au lycée et de l'accès à l'université.
Très important.
Des filles. C'est très important, c'est peut-être même la base de tout un tas de choses. D'autres promesses n'ont pas été tenues, telles que, par exemple, la révision du statut des femmes au sein de la famille, qui a été reportée, même si, très peu de temps après l'indépendance au Maroc, qui a eu lieu en 56, en 57 et 58, il y a eu la codification du droit de la famille dans ce qui s'appelait la Moudawana. Bon, c'est le Moudawana, en fait, ça veut dire quoi ? C'est code, et c'est le code de l'imam Malik, puisque le Maroc est malikite, il est dans le rite malikite, et le code de statut personnel qui a été proclamé fin 57 et début 58 n'a pas répondu aux espérances des femmes en matière de polygamie, par exemple. Il n'a pas répondu aux espérances des femmes en matière d'héritage, parce qu'il faut savoir aussi que c'est une question qui a été soulevée très très tôt, mais par ailleurs il a en tous les cas homogénéisé les choses. Donc il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, il y a des promesses qui ont été tenues. Par la suite, après les indépendances, c'est là où peut-être avec justement ce passif, je dirais, de déception, que progressivement le mouvement des femmes ou les mouvements des femmes se sont structurés. La déception qu'il y a eu du côté des mouvements nationaux par rapport aux mouvements nationaux qui n'ont pas tenu leur parole, et puis progressivement à partir des partis politiques qui étaient de gauche, qui étaient socialistes ou communistes, etc., et dans lesquels les femmes qui étaient militantes en tant que citoyennes se sont, à partir des années 80, rendues compte que la question de l'égalité homme-femme était quand même quelque chose qui était mise largement en deuxième, troisième, énième priorité par rapport aux autres questions, d'autres égalités, notamment économiques, notamment politiques, etc.
Est-ce que les choses ont changé avec les révoltes, révolutions ou printemps, on les appelle comme on le souhaite, de 2011, où les femmes ont été là aussi très présentes?
Absolument. Les choses ont commencé à changer avant. Si je prends l'exemple du Maroc, en 2004, il y a eu la proclamation du Code de la famille, dans lequel, indiscutablement, il y a eu des avancées tout à fait importante.
Lesquelles, par exemple?
Déjà depuis 92, la polygamie est sujette à autorisation. En 2004, on a franchi une étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'à la limite, il n'y a pas encore vraiment l'autorisation juridique, je veux dire, auparavant. C'est plus seulement l'homme qui allait chercher des agents civils pour enregistrer un deuxième mariage. En 92, déjà, suite à une pétition du million de signatures qui avait été menée par des femmes, lancée par des femmes, il y a eu déjà des petites réformes, notamment sur la question de la polygamie, la rendant judiciarisée, c'est-à-dire qu'elle passe obligatoirement par le tribunal. En 2004, on a franchi une étape supplémentaire, c'est-à-dire que c'est pas vraiment l'autorisation de la première épouse, mais c'est la possibilité pour la première épouse de demander le divorce si elle refuse la polygamie et d'être même dédommagée parce qu'elle subit un préjudice. Il y a d'autres choses, mais ça serait trop long. En Tunisie, faut pas l'oublier, les avancées ont eu lieu beaucoup plus tôt, mais c'était grâce à la décision de Bourguiba. Donc c'était véritablement une décision qui venait d'en haut et qui a été très loin pour l'époque et par rapport aux autres pays musulmans.
La Tunisie qui a présenté une loi, un Premier ministre a présenté une loi pour l'égalité dans l'héritage, et ça c'est un événement important dans la mesure où 99% grosso modo de la population est religieuse et musulmane.
Tout à fait, c'est ce que j'essayais de dire justement. Tout à fait, c'est parmi les conséquences de l'effet cumulatif de ces différents mouvements qui étaient des mouvements spontanés, qui n'étaient pas avec des leaders politiques, qui n'avaient pas nécessairement un programme politique, mais qui visaient la justice, les libertés et la réduction de toute cette hémorragie de capitaux et de biens qui étaient vraiment monopolisés par une minorité d'hommes en général.
Mais par exemple, dans la révolte, le printemps arabe en Égypte, les femmes ont été, dans leurs revendications, plus ou moins marginalisées. Et ça, c'était quand même un problème.
Je ne sais pas ce que vous entendez par les femmes ont été marginalisées. Déjà en Égypte, la participation des filles et des femmes était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Parce que l'Égypte, qu'on le veut ou non, c'est différent. Déjà, quand vous franchissez, je crois que dès que vous dépassez la Tunisie, le monde arabe est un petit peu différent. D'accord. En Égypte, on a vécu ce qui a été vécu, en tout cas ce qui est visible depuis pas mal de temps, c'est une, avant même l'islamisation du régime, c'est quand même une traditionnalisation qui s'est progressivement installée dans ce pays. Je veux dire que l'Égypte des années 50 et 60, où les femmes étaient en décolleté avec de très belles coiffures, etc., est bien loin de nous, alors qu'on peut encore trouver l'existence de ce genre de femmes en Tunisie, au Maroc ou en Algérie. Bon, donc l'Égypte avait déjà vécu un début de retour à une certaine tradition, très vraisemblablement liée aux conditions économiques, liée à tout un tas d'autres choses. Encore une fois, je ne suis pas politologue, je ne peux pas faire des analyses sur le plan politique. Mais moi, ce qui m'a frappé dans la participation des femmes en 2012, dans les événements de la place Tahrir, c'est que très vite le pouvoir militaire a essayé à la limite de déposséder ces femmes de la revendication politique. d'accord, en replaçant les Lumières sur leur statut de femme. Hein? Donc, en voyant, est-ce que la mixité, est-ce qu'elle n'aboutissait pas à de la débauche, en imposant d'une certaine manière des examens pour vérifier la virginité des femmes, pour savoir si c'était des femmes de bonnes mœurs ou de mauvaises mœurs. Donc, c'est des choses qui peuvent paraître, bon, bien entendu, qui sont choquantes sous le plan de l'atteinte à l'intégrité physique, sous le plan des droits humains, sous le plan du respect de la dignité des femmes, mais c'est des choses qui peuvent paraître anodine sur le plan politique, mais qui montre quand même que les frontières bougent. Hein, et que finalement, se rabattre derrière ça, c'est peut-être aussi pour masquer « Attention, les femmes sont là. Attention, les femmes arrivent. »
Orient Hebdo sur RFI.
Est-ce que plus de démocratie, c'est donc plus de droits individuels, plus d'égalité? Est-ce que sur la rive sud de la Méditerranée, ça ne se heurte pas à un poids plus important de la religion?
Indiscutablement.
Et que faut-il faire? Est-ce qu'il faut renvoyer la religion vers une sphère plus privée?
Indiscutablement, c'est un des freins, mais qui n'est pas insurmontable. Hein, il n'est pas insurmontable et chacun, disons qu'on peut l'aborder de plusieurs façons. Comment, et je crois que c'est la combinaison de toutes ces approches qui peuvent le rendre insurmontable. Une des approches, c'est effectivement celle de tenir compte qu'il ne faut pas essentialiser l'islam. Il ne faut essentialiser aucune religion. Et en tous les cas, puisqu'on parle maintenant du sud de la Méditerranée et des pays musulmans, que le plus grand risque, c'est celui de l'essentialisation de l'islam. Et c'est ce que fait le mouvement islamiste politique extrémiste. Dans la mesure où l'islam, c'est une histoire. Et l'islam, c'est d'abord et avant tout, au-delà du texte coranique fondateur, l'islam, c'est d'abord et avant tout une histoire des musulmans. Et cette histoire des musulmans, elle a évolué dans le temps, toujours avec des différences en fonction des régions, en fonction des pays, en fonction des sociétés et en fonction de tous les référents culturels de cette société qui peuvent même être antérieurs à l'islam. D'accord ? Donc, si on accepte cette définition de l'islam comme faisant partie de l'histoire, là, il est tout à fait possible de relativiser le poids d'un certain nombre de traditions, de relativiser le poids d'un certain nombre d'interprétations.
Et justement, à côté de la religion elle-même, il y a aussi la notion de patriarcat. Et vous dites que nous voyons peut-être en ce moment la fin du patriarcat traditionnel. Pourquoi ?
Je ne dirais pas la fin du patriarcat traditionnel. Si je l'ai dit, ce que je veux dire...
La diminution, en tout cas.
En tout cas, le changement. En tout cas, des évolutions. De toute façon, il est établi aussi que le patriarcat a précédé les religions monothéistes. C'est pas quelque chose qui est venu avec les religions monothéistes. Et je pense que c'est une combinaison de choses. Il y a, d'une part, la réalité de la montée des mouvements de revendication des femmes, la réalité de l'imprégnation de toutes les populations du Nord et du Sud par la culture des droits de l'homme. D'accord ? Qui au début est peut-être venu pour des questions de défense contre l'autorité, contre l'agression physique que l'on pouvait subir par le gouvernant. D'accord ? Au début, c'était peut-être la protection du physique, mais progressivement, la philosophie des droits de l'homme a fait son chemin dans les têtes des populations. Et dans cette culture de droits humains, il y a un certain nombre de choses automatiquement qui sont remises en question, nécessairement, ou en tous les cas qui questionnent les préjugés, les stéréotypes et les modes de fonctionnement traditionnels. Donc, ne serait-ce que dans ce sens-là, le patriarcat a été bouleversé déjà par la culture des droits de l'homme. Et ça date à partir du XVIIIe siècle, en Europe en tous les cas, avec le siècle des Lumières, mais encore plus depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bon, donc le patriarcat a déjà été bousculé. En plus, il y a tous les événements sociaux, tous les changements sociétaux qui ont eu lieu. L'accès des femmes à l'éducation, hein, l'accès des femmes à l'éducation scolaire a fait que nécessairement, elles ont acquis un droit à la parole, elles ont acquis une capacité de prise de parole. Donc ça aussi, ça bouleverse. L'accès des femmes à l'emploi, donc à l'espace public, donc à plus de visibilité. Évidemment, tout cela ne s'est pas fait sans des luttes partout dans le monde. Donc dans tous les cas de figure, c'est un processus de longue durée.
Et est-ce que c'est commun à l'ensemble des pays du Maghreb et du Moyen-Orient, la région MENA dont on parle régulièrement ?
Je pense que c'est commun au monde entier. Je pense que c'est commun au monde entier parce que ces évolutions-là, plus personne ne conteste le droit à la scolarité des femmes. Nulle part. Plus personne dans le monde ne conteste. Oui, je sais bien que ça a été l'objet d'horreur en Afghanistan. Je sais qu'il y a Boko Haram qui a fait des tas de choses qui sont épouvantables, mais ça reste, je dirais, presque des exceptions pour confirmer la règle. Le droit à la scolarité des filles est quelque chose qui ne peut plus du tout être contesté, il ne peut plus être remis en question. Bon, donc c'est un mouvement qui est presque universel de changement du paradigme des relations hommes-femmes. À partir du moment où les femmes accèdent à une forme ou une autre de pouvoir, que ce soit via le travail, ou que ce soit via la représentation politique, ou que ce soit via la maternité aussi, d'accord ? Il y a nécessairement le patriarcat est bouleversé. Puis il y a maintenant d'autres choses qui sont, bon, un peu, c'est peut-être un peu loin de l'objet de notre entretien aujourd'hui, il y a aussi tout ce qui se passe sur le plan des biotechnologies médicales. La contraception a été un moment historique capital dans justement la libération des femmes du carcan de sexualité égale grossesse égale soumission. D'accord ? Donc il y a tout un tas de choses, c'est un processus qui fait que, et puis maintenant bien entendu avec les techniques de procréation médicalement assistée où la notion de patriarcat, non seulement le patriarcat est bousculé, mais toute la notion de parentalité, de rapport de genre, même la notion de genre est remise en question.
Et l'autre revendication, à côté de cette égalité des droits et de ces nouveaux droits liés notamment à l'évolution de la bioéthique, il y a aussi ce besoin de citoyenneté qui se développe dans toute la région, et on le voit notamment au Liban, au Soudan, en Irak ou en Algérie. Ça, c'est un autre point d'avancer vers plus de démocratie.
Vous savez, si on prend le mot citoyenneté à partir de son origine, la cité, eh bien, à partir du moment où les femmes sont dans l'espace public, elles ont accès à la cité, elles voient comment ça se passe, et il y a de plus en plus de revendications de citoyenneté. Dans tous les pays du Sud, et pas seulement dans les pays du Sud, il y a la question de la violence à l'égard des femmes. Il faut savoir que les violences dans les espaces publics sont des violences qui restent encore très, 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 très importantes. Et donc l'occupation de l'espace public en lui-même est une entrée dans la citoyenneté. Le droit de vote est une entrée de plein pied dans la citoyenneté. Donc nécessairement, toutes ces choses-là font bouger les frontières. Pas assez vite. Pourquoi pas assez vite ? Pas assez vite parce que il y a, moi ce que j'ai toujours dit, mais ce n'est pas de moi, il y a ces différentes temporalités des différents changements qu'il peut y avoir. Il y a une temporalité qui peut être relativement rapide dans les pratiques. Les pratiques bougent vite. Et surtout avec la mondialisation maintenant, avec les nouvelles technologies de l'information où il y a une culture universelle à la limite qui passe à travers les radios, à travers les journaux, à travers Internet, à travers les smartphones, etc. Donc les pratiques changent, d'autant plus que tout ce qui est technologie permettant ces changements atteignent tous les coins de la planète. Elles essaiment partout. Il y a une deuxième temporalité qui est celle des lois. Elle est plus lente parce qu'elle est dépendante des politiques. Elle est dépendante des politiques, elle est dépendante de la volonté des politiques de faire changer les lois. Et puis il y a la troisième temporalité qui est la plus lente, qui est celle des mentalités et donc de la culture. Et on peut se trouver, c'est le cas par exemple dans plusieurs pays de ces régions dont vous parlez, c'est-à-dire l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, on peut se trouver à des moments où il y a presque une contradiction entre les pratiques. Je peux enlever le presque sans aucune gêne. Il peut y avoir des contradictions entre les pratiques des citoyens, hommes et femmes, et la culture que eux-mêmes continuent à défendre. Donc voilà. Et la loi, elle est en train de jongler entre les deux.
Merci, Nouza Guessous.
Merci à vous, Éric Bataillon.
Professeur émérite de biologie médicale à l'Université de Casablanca au Maroc. Vous êtes chercheuse et consultante en droits humains des femmes. Orient Hebdo, mise en ondes et réalisation Mathias Golchani. On se retrouve avec plaisir samedi prochain. Passez une bonne semaine, fidèle à la Radio Mondiale. Tout de suite, le journal.